Écoutez, bonsoir et merci d'être là. Et pour rencontrer quand même Christophe Arleston, je pense que la majorité de vous le connaissent. Si ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, ils vont le découvrir. Donc Christophe Arleston, né il y a quand même presque, on veut dire, presque 50 ans, un petit
Oui,
peu moins.
mais on n'est pas obligé de parler de ce sujet-là.
Bon, on n'en parle pas, alors on va laisser ça. On va surtout parler de ta carrière et de ton envie de faire de la BD. Alors ma première question va être simple. Comment ça a commencé?
Bah, ça a commencé comme lecteur, évidemment, comme tout le monde. C'est-à-dire que quand j'étais môme, je lisais Spirou, Mickey, et puis je lisais aussi des choses qui traînaient chez moi, qui s'appelaient Charlie Hebdo. Donc j'ai découvert en même temps Donald, Reiser et Gilles Jourdan. Donc j'ai eu des lectures très mélangées, très éclectiques, dès mon enfance. Et puis je me suis passionné pour cette façon de raconter les histoires et la bande dessinée. Donc j'ai eu tout naturellement envie d'en faire. Jusqu'à un âge assez avancé, jusqu'à la fin de l'adolescence, je voulais être dessinateur, évidemment. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que le dessin était un travail, un exercice très long, et que finalement, on ne pouvait pas raconter énormément d'histoires en dessinant, parce que on passait un an pour un album, et un album, c'est quand même une histoire assez courte, ça correspond à une longue nouvelle en littérature, et c'était extrêmement frustrant. Moi, j'avais beaucoup plus d'histoires à raconter, et je me suis tout naturellement tourné vers le scénario.
Mais au début, tu n'as pas fait des scénarios de bande dessinée parce que tu as quand même fait une école de journalisme. Il y avait quand même une volonté derrière cette école d'aller vers raconter des histoires, mais à partir d'autre chose ou...
Non, l'école de journalisme et les études, c'était pour faire croire à mes parents que j'allais faire un métier sérieux un jour, mais moi, en moi-même, je savais que je voulais faire de la bande dessinée et que c'est là que je finirais par arriver. Voilà.
D'accord. Donc, tu as pris des chemins détournés pour arriver à faire ce que tu voulais, ce que
Oui, et puis
depuis tout
de toute
jeune.
façon, une école de journalisme, ça apprend l'écriture, ça apprend quand même pas mal de choses qui sont en relation avec la narration en elle-même.
Ouais. Donc, et tes premières histoires que tu as pu raconter qui ont été, comment dire, je vais pas dire publiées parce que c'est quand même des dramatiques radiophoniques. Tu as commencé par ça, je crois. Hein.
Oui, j'ai commencé par écrire des dramatiques radio parce que j'ai toujours été passionné de théâtre aussi. Et le théâtre radiophonique, il se trouve que je travaillais à France Inter et que il y avait une émission tous les après-midi qui passait des petites pièces d'une demi-heure. Et que tout ça, bah, c'est toujours raconter des histoires, sauf que là, elles sont lues par des acteurs. Et ça a été pour moi un excellent exercice à cette époque-là parce que ça m'a permis de travailler le dialogue. Le dialogue est très important dans la bande dessinée. On a un dialogue écrit-parlé. C'est-à-dire qu'on doit donner une impression de langage parlé, mais à l'écrit. Ce qui est différent justement du dialogue théâtral ou cinéma, qui est un vrai dialogue parlé. La bande dessinée doit apprendre à tricher avec ça. Mais en attendant, le fait d'avoir des acteurs qui disaient mon texte, ça me permettait aussi, en l'écoutant, de me rendre compte de ce qui n'allait pas et de progresser. Ça a été une formidable école pour ça.
Bon, tes débuts, bon, donc tu as fait comment dire, ces petites pièces pour France Inter qui t'ont appris quelque chose sur la narration, sur comment équilibrer, faire écrire. Et puis, bon, tes premiers scénarios, tu les fais pour le journal Circus. Alors, c'est quand même à parler dans une époque de la bande dessinée encore où il y avait la presse était encore importante. On est là, je pense, au début des années 80 à peu près. Et la presse est importante. Les lecteurs de bande dessinée lisent des journaux. Tintin, Spirou, Existe, Métal Hurlant à suivre et toutes ces revues-là. Toi, tu travailles dans une revue qui s'appelle Circus.
Oui, Circus, c'était la revue de Glénat. C'est vrai que moi, j'ai pendant très longtemps lu la bande dessinée dans les revues. Puisque donc il y avait l'explosion, moi pendant mon adolescence, ça a été l'explosion de Flux Glacial, Métal Hurlant, L'Écho des Savanes. Il y avait toujours Pilote, évidemment, Charlie Mensuel. Il y avait toutes ces revues-là. Après, pour les enfants, il y avait Spirou, Tintin. Et la revue, le journal, était le support naturel de la BD pour moi. Glénat avait lancé sa revue, Circus. Donc j'ai été y proposer des histoires complètes. Et j'ai été ravi de bosser un peu dedans. Il se trouve qu'au même moment, enfin très peu de temps après, j'ai commencé à travailler dans Tintin. Et j'ai fait l'année suivante l'enterrement de Circus et l'enterrement de Tintin. Donc personne n'a jamais réussi à prouver qu'il y avait un lien, d'ailleurs, entre mon
Ah
arrivée
oui.
dans le journal et la mort du journal. Mais bon, c'est vrai que c'était la fin d'une époque, c'était la fin de la presse. Et c'est pour ça que je me suis vengé 15 ans plus tard quand j'ai pu lancer l'Enfoste Mag, qui lui va bien et toujours vivant.
Oui, on y reviendra après. Donc tu travailles, donc tu fais l'enterrement de Tintin, de Circus, et puis bon, plein d'autres vont suivre dans cette presse. Et toi, alors, qu'est-ce que tu dis? Bon, ça marche pas la presse, c'est pas le domaine dans lequel je vais te publier. Comment t'amène à la réflexion à vouloir faire des histoires quand même et trouver quand même un éditeur maintenant? Il faut quand même trouver, faire des histoires.
À partir de là, les journaux étaient en train de disparaître, donc je me suis dit, il va falloir passer directement à l'étape suivante, monter trois marches d'un coup et passer aux albums. Puisque finalement, il n'y avait plus cet espace. Parce que ce qui est formidable avec ces journaux, c'est qu'on pouvait faire une histoire de 4 pages, 6 pages, 8 pages, et puis le mois suivant, on en faisait une autre qui n'avait pas forcément de lien avec la première. On n'était pas obligé d'avoir un héros récurrent, on n'était pas obligé de... On pouvait se chercher, on avait le temps de trouver vraiment ce qu'on avait envie de raconter, sous quelle forme, faire des expériences différentes. Alors que l'album, on part d'entrée pour un objet un peu contraignant et un peu contraint, qui est ce format de 44 pages couleur, où il faut avoir une uniformité, évidemment, entre le début et la fin du bouquin, et en plus le fait que les éditeurs vous expliquent assez rapidement que, de toute façon, ce n'est pas un album qu'il faut faire. Il faut déjà réfléchir en termes de série, c'est-à-dire qu'on va faire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4. Donc on s'engage dans un processus assez lourd. Et c'est vrai que quand on peut avoir l'occasion de faire ses gammes autrement avant, c'est quand même beaucoup plus agréable.
Ouais, donc au niveau de la réflexion sur la création et la construction d'une histoire, par rapport à la revue où tu disais tout à l'heure, on pouvait faire des essais, on avait un apprentissage, là dans l'album, il y a quand même une réflexion différente, il y a la construction d'une histoire complète qui ne va pas être prépubliée, mais on va sortir les... Bon, à l'époque, c'était les 46 pages d'un coup. Alors, comment toi, tu envisages tes premières histoires, en particulier les deux premières séries qui vont paraître, avec des genres très différents, comme Léo Loden avec Serge Carrère, qui est plutôt inspiré de l'univers un peu de Gilles Jourdan et qui est de l'enquête policière qui se déroule dans un univers marseillais ou sud avec beaucoup d'humour. Et les maîtres, l'autre, c'était les maîtres cartographes, qui est plutôt déjà une série où tu inities quand même ton goût et ton envie de faire quelque chose qui sera plutôt de la fantaisie, de la science-fiction, d'aller dans des mondes imaginaires et des mondes où tu vas créer des univers.
Oui, enfin, sur le coup, je prémédite pas du tout. Hein. Je raconte les histoires que j'ai envie de raconter sans chercher à construire ça d'une façon ou d'une autre. Au même moment, il y avait aussi au Lombard une autre série qui s'appelait Tandoori, qui était les aventures d'un petit fakir en Inde. Moi, j'ai été très, très marqué par Spirou, par tout ce côté bande dessinée franco-belge pour enfants. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire au départ. D'où Léo Loden, le côté polar, Tandoori, les aventures en Inde. Et puis, lecteur de fantasy, de science-fiction, en roman, hein, principalement, parce qu'il faut bien dire qu'en bande dessinée, il n'y avait pas grand chose à l'époque. Il y avait eu La quête de l'oiseau du temps, qui était formidable, mais qui était finie. Et sinon, il y avait quelques vieux Conan. Il y avait à peu près que ça en fantasy. Et s'il y avait deux, trois trucs français, mais c'était de la fantasy très sombre, très dark. Et c'était absolument pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'étais marqué par les romans de Jack Vance, les romans de Philippe-Joseph Farmer, par les grands de la planète fantasy. En roman, et j'avais envie de faire ça en BD, en fait. Donc, je me suis lancé dans les maîtres cartographes avec ce concept d'un monde recouvert par une ville tentaculaire, mais médiévale, et où le personnage était un cartographe qui devait essayer de faire le plan de la ville. Et voilà, on a fait 6 albums. Après, ça s'est plus ou moins bien passé avec le dessinateur. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans les collaborations et les derniers albums n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu qu'ils soient parce que on était déjà un peu brouillés, malheureusement. Donc, à ce moment-là, quand deux personnes ne s'entendent plus, ils ne font plus forcément un très bon travail. Mais c'est un de mes grands regrets parce que c'est une idée, une série que j'aimais beaucoup et je n'exclus pas un jour de revenir dans cet univers-là. Peut-être pas avec ces personnages, mais de retravailler dans cet univers-là.
Alors, ces deux premières séries, enfin Léo Loden, le maître cartographe et Tantori que tu cites, sont quand même caractérisées dans cette BD quand même. Bon, le polar plus du monde, mais il y a quand même beaucoup d'humour dedans. Tu joues beaucoup sur les mots, les jeux de mots.
Je peux pas m'empêcher.
Oui, tu peux pas t'empêcher. Alors, moi, il y a quelques dessins qui passent derrière nous. Quand on regarde, on verra qu'ils ont tous un côté humoristique. Je les ai choisis volontairement parce que je trouve que c'est quand même une des grandes caractéristiques de tes scénarios, de tes personnages, c'est de jouer avec les mots, de jouer avec les personnages et d'apporter une dose d'humour partout où tu peux, quoi. Donc, et voilà, dans les Maîtres aux Quatre Bras, il y en a. Dans les Holodennes, bon, il y a de l'humour un peu alpagnol, des choses comme ça, c'est rigolote. Et puis après, tu crées L'Enfeuse de Troyes. Et L'Enfeuse de Troyes, c'est une série qui arrive, qui est une série d'heroic fantasy, qui va dévier sur d'autres thèmes de la science-fiction. Mais où il y a déjà dans le nom L'Enfeuse. D'où vient ce nom déjà, L'Enfeuse?
L'Enfeuse, c'est pas très loin d'ici, enfin pas très loin d'ici, c'est quand même un petit peu. C'est le nom d'un village à côté du Conquet. Que j'avais traversé en allant prendre mon bateau pour Ouessant, et je sais pas, la plaque du village, L'Enfeuse, je me suis dit, tiens, voilà un nom qui sonne, et puis je l'ai noté. Ah, et okay. Ça m'est resté, et puis je l'ai utilisé quelques années après.
Ah d'accord. Ben,
il m'arrive souvent de noter comme des noms qui me parlent.
Alors, ce qui est assez curieux sur ce L'Enfeuse, sur ce nom, nous, en librairie, quand on le voit, il y a beaucoup de gens qui le prononcent L'Enfeuse.
Oui, alors il y a des Lanfeustes. Au début, on avait une typo où la barre du F n'était pas très bien marquée. Alors on a eu des Lanteustes aussi pendant un moment.
Des Lanteustes, ouais.
Après, discrètement, on a grossi un petit peu la barre du F. Et il y a des tas de prononciations, des Lanfeustes aussi. Moi, peu importe, hein, du moment que chacun fait sa prononciation. Comme le monde de Troyes, il y en a qui disent Troy.
Oui, ils disent Troy, bon. Troyes. Ouais. Donc justement, et ce nom, alors L'Enfeuse, bon, maintenant on sait que ça vient d'un petit village à côté de Conquet, et ce nom de Troyes, T-R-O-Y, donc ça fait référence à la guerre de Troyes, la ville de Troyes antique, il y a quelque chose là-dedans?
Ah oui, certainement, il faut chercher très très loin là-dessus. Non, en fait, j'ai un copain qui est écrivain de science-fiction, Richard Nolan, qui m'avait dit à l'époque, un bon titre, c'est « Machin de truc ». Donc, moi, j'étais là, L'Enfeuse 2, 3. Voilà.
Pourquoi pas 2?
Parce qu'après 2, il y a 3.
Il y a 3.
Et les lecteurs s'en sont rendu compte au tome 4, quand ils ont dit, est-ce que vous avez L'Enfeuse 2, 3, 4? Donc, voilà. Non, c'est aussi con que ça, il ne faut pas chercher très très loin. Moi, je suis très primaire, tu sais.
Non, mais en fait, c'est l'humour, je veux dire, là, bon, alors, dans ton humour de BD, on sent quand même deux grands ancêtres, à dire René Goscinny.
J'ai été marqué évidemment par Goscinny, mais comme j'ai été marqué par énormément de choses, Goscinny, c'est difficile de ne pas être sous son emprise dans un pays où on vend 2 millions d'Astérix à chaque fois qu'il en sort un. Bien sûr, Goscinny, c'est formidable, ça m'a toujours beaucoup fait rire, mais en même temps, je crois que j'ai été tout aussi influencé par les dialogues d'Audiard dans les films d'Audiard,
ouais.
Par Maurice Thilleux avec Gilles Jourdan, par je sais pas, on est la somme. D'énormément d'influence, je crois, et on construit sa personnalité en mélangeant tout ce qu'on a grappillé dans son adolescence à droite et à gauche.
Donc, oui, donc moi j'ai cité aussi Thilleux, évidemment, Audiard, évidemment, parce que si Goscinny, Audiard, c'est à peu près la même époque, et c'est des personnes. Dommage qu'ils aient pas travaillé ensemble.
Mais en même temps, Jack Vance, dont je parlais, m'a énormément influencé, t'a beaucoup assez, ouais. Et Woodhouse, un auteur anglais de romans, m'a beaucoup donc, influencé aussi. Il y a de tout.
On se rend compte finalement que dans. Je peux dire le terme anglais, le background, ce qui t'a influencé, ce qui fait la somme de ce que tu as fait, c'est quand même des lectures qui sont très diverses parce que, bon, avec Troyes, on retrouve quelque chose qui est plus lié à l'histoire. On retrouve ces grandes épopées aussi avec le naufragé d'Ithaque, donc Ithaque, c'est la ville d'Ulysse. Mm-hmm. On retrouve des choses qui font appel à l'histoire, qui font appel, on en parlait hier déjà, à la science-fiction. Alors, ça, tu peux, parce que tu es quand même un grand lecteur de romans, de textes de science-fiction dans différents genres et dans différents domaines. Et en plus, et finalement, c'est scénariste de bande dessinée. Et tout ça pour créer cette série de L'Enfeuse de Troyes. Alors, qui va, on va dire, en 1994, quand elle paraît, à rencontre tout de suite son public. C'est une explosion.
Oui, ça a été une énorme surprise de voir avec Tarquin. On s'est souvent dit, on est tombé au bon moment. Coup de bol, on serait sorti un an plus tôt, un an plus tard. On n'aurait peut-être pas croisé le public. Là, on a correspondu pile aux attentes d'un large public. Ça a été, on pensait faire une gentille petite série. Je faisais déjà Les Feux d'Askel avec Jean-Louis Mourier, qui marchait gentiment, Les Maîtres Cartographes, Les Holodennes. Et on pensait faire la même chose. Et du jour au lendemain, ça a été une explosion immédiate, par contre.
Oui, ce que j'appelle une série phénomène au niveau de l'accueil du public, demande, et le succès est immédiat. Avec, l'album, il est épuisé, je crois, en quelques jours.
Ah oui. Il faut dire que l'éditeur n'en avait pas imprimé beaucoup. Hein.
Je sais combien à l'époque.
Il en avait imprimé 2000 exemplaires. Et en plus, on sortait au mois d'octobre entre un Torgal, un Schtroumpf, un 13. Et donc, normalement, mais j'ai appris beaucoup de choses sur l'édition à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les lois de l'édition qu'on vous donne sont toutes fausses. Quand un truc doit marcher, il va marcher. Parce que là, on sort sacrifié. Les libraires en ont reçu un ou deux chacun qui partaient directement sur tranche dans le rayon. et c'était un album qui était sacrifié d'entrée. Et pourtant, les 2000 se vendent en 3 jours. Mourad réimprime derrière tout de suite. Et arrivé à Noël, on en avait vendu 15 000 déjà. Donc, ça prouve que toutes les règles, les auteurs qui disent « Oui, mais mon bouquin n'a pas été mis en avant, il n'y a pas eu de promo, on n'est pas sorti au bon moment, il n'était pas là. » Non, quand un truc doit marcher, il va marcher. Ouais. Le bouche à oreille fait que, des fois, ça prend un petit peu plus de temps que s'il y a de la promo. Mais disons que la promo fait juste gagner du temps. Mmh. Elle ne fait pas le succès d'un livre. Ouais. Ce qui fait le succès d'un livre, c'est les lecteurs qui vont en parler, qui vont dire ouais, « J'ai trouvé un truc, ça m'a plu », et vont le recommander aux copains, et c'est comme ça que ça marche.
On a la chance dans la bande dessinée d'être dans une lecture qui est quand même très populaire, on peut le dire, c'est vraiment une lecture populaire, et ce sont les lecteurs qui font le succès ou pas, ou l'insuccès des bandes dessinées en ne les lisant ou les achetant pas.
Ah, de toute façon, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup travailler dans la BD, c'est que tous les coups éditoriaux formatés se sont tous toujours cassés la gueule. Et à chaque fois qu'un éditeur essaie de faire un pur produit commercial, c'est un échec. Et ça, c'est un bonheur, parce que les seules choses qui marchent, c'est des choses faites avec sincérité par les auteurs.
Oui, ça c'est vrai, on le constate depuis quand même beaucoup d'années. Bah, c'est vrai que le succès d'Astérix, on peut dire le premier... Astérix a été tiré à 2000 exemplaires.
Oui, oui, Georges Bergaud, il ne croyait pas du tout.
Hein. Ouais, personne n'y croyait, donc... Finalement, tu ne fais que perpétuer une grande tradition.
Et le journal de pilote a été fondé pour pouvoir passer Astérix dedans, parce que personne d'autre n'en voulait. Donc Goscinny a dit, puisque personne n'en veut d'Astérix, je vais faire mon journal pour le mettre dedans.
Ce qui est la bonne solution, finalement, voilà. C'est mieux. Quand on croit à un projet, mené à bien. Donc, ce que je disais, tu perpétues cette grande tradition des succès de bande dessinée, comme ça, qui sont inattendus, mais qui sont quand même merveilleux, parce que finalement, ils récompensent le travail des auteurs. Mmh. Alors, une question que je vais te poser sur le... par rapport au maître du... pas au maître du maître cartographe. Alors, ta collaboration avec des dessinateurs, je me suis rendu compte en regardant un peu les albums, en regardant ce qui se passait, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont des styles assez relativement proches au niveau dessin. Tu as toujours des gens qui ont un dessin qui est entre un peu ligne claire, avec un côté un peu plus légèrement réaliste, mais tu n'as pratiquement pas de dessinateur purement réaliste. Je veux dire,
ce que j'appelle Philippe Pellet qui fait les forêts d'opale.
Oui, à part les forêts d'opale, mais les autres sont un dessin quand même qui est très dynamique, très humoristique quand on voit ce que fait Mourier, ce que font tous ces gens-là. Mm-hmm. Donc c'est un choix volontaire ce type de dessinateur ou c'est simplement une rencontre?
C'est toujours des rencontres, mais de toute façon, les rencontres m'amènent vers des styles qui me parlent et pour lesquels j'ai envie d'écrire. Moi, j'ai créé une série pour un dessinateur. Je ne fais pas partie des scénaristes qui ont des projets d'avance tout près et qui vont chercher le dessinateur à mettre sur tel projet. Non, au départ, j'ai besoin de rencontrer un dessinateur, de parler, de passer des heures à boire des cafés et au resto. Et on voit si on a envie de travailler ensemble, autour de quel univers. J'ai besoin d'être séduit par le trait du dessinateur. Et c'est peut-être justement les points communs des dessinateurs dont tu parles. C'est peut-être le fait que c'est ce style-là qui me séduit plus naturellement. J'aime bien les dessinateurs semi-humoristiques, c'est-à-dire des gens qui sont quand même capables de traiter les scènes de comédie, les scènes d'humour, et surtout, le plus important, qui vont bien faire jouer les acteurs que sont les personnages. Un dessinateur doit avant tout faire jouer les personnages, mettre le bon petit regard en coin, la gestuelle, les expressions. C'est un vrai jeu d'acteur qui est donné par le dessinateur. Et quand je vois quelqu'un comme Jean-Louis Mourier, le dessinateur des Trolls, il anime les personnages, c'est-à-dire que réellement il met une âme dans les personnages d'une façon extraordinaire. Donc là, ça devient un plaisir et une facilité d'écrire pour lui.
Donc ouais, ton choix, finalement, c'est un travail de... Tu te mets au service du dessinateur, finalement. Tu mets ton histoire au service de ses qualités.
Voilà, à partir du moment où je l'ai adopté, où on est d'accord, où tout va bien, oui, je me mets au service, je taille des costumes sur mesure.
D'accord. Donc toi qui...
Comme Audiard écrivait pour Gabin ou Ventura, moi j'écris pour Tarquin ou pour Mourier.
D'accord. Donc ce qui donne des styles légèrement différents, à chacun tu adaptes, à chacun tu essaies de trouver où il sera le plus à l'aise, où il sera le plus fort, évidemment.
Oui, et puis ce qu'il a le plus envie de dessiner en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un petit travail de maïotique à faire, il faut que j'arrive à le faire accoucher de ce qu'il a vraiment envie de dessiner, de ce qu'il a vraiment envie de faire, même si lui n'en est pas forcément conscient au départ. D'accord. Et l'amener pour exprimer là où il va être le meilleur, c'est-à-dire dans ses envies réelles, ses envies profondes. Et c'est pour ça que les choses évoluent aussi avec les années, parce que là, on parle de gens avec qui je travaille depuis 20 ans. À 25 ans et à 45 ans, on n'est pas le même. On évolue, donc les envies évoluent. Moi, mes envies de raconter des histoires évoluent aussi. J'ai plus envie de les raconter forcément de la même manière. Donc, on doit tenir compte de tout ça. C'est toute une alchimie.
Donc, à partir de cette série L'Enfeus, là, qui démarre en 94, tu crées tout un univers autour des mondes de Troie, parce que la série va être déclinée, va y avoir d'autres séries comme Cixi de Troie, va y avoir des ouvrages qui expliquent le monde. Alors tout ça, ça te vient comment? Plus peut-être de tes lectures de romans, plus que des lectures de BD, ce genre de construction et d'imaginer ces mondes avec des personnages, des univers, des
ouais, la très, construction très de l'univers, les cartes, tout ce côté-là. C'est vrai que ça, c'est le côté de lecteur de romans qui ressort là derrière. Je parlais de Jacques Vente tout à l'heure. Ce type arrivait à faire des bouquins dans lesquels il y avait plus de notes en bas de page que de corps de texte. Et c'est ça que je préférais, comme tout le monde. C'est le moment où il expliquait comment fonctionne telle civilisation, comment marche tel ou tel truc. Et j'avais envie de retrouver ça un petit peu dans l'univers que je créais. Après, je voulais pas raconter non plus tout le temps les mêmes histoires. Donc j'ai pris des points de vue très différents à chaque fois. L'Enfeust, l'histoire de base, elle est vue du côté des sages d'Ecmul, du côté du héros L'Enfeust. Après, les trolls sont présents dans L'Enfeust, mais comme des bêtes dangereuses. Après, j'ai fait Troll de Troie. Là, je me suis mis du point de vue des trolls. Et les gens du conservatoire d'Ecmul deviennent les méchants. Donc, je continue à explorer le même univers, mais sous un autre angle, en plaçant ma caméra ailleurs, en regardant comment ça peut fonctionner vu d'ailleurs, et avec un décalage temporel, puisqu'on est 300 ans plus tôt. Ensuite, j'ai fait Les Conquérants de Troie, qui se passe 4000 ans plus tôt, avec d'autres personnages. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pas de faire des spin-offs avec les personnages, c'est d'utiliser le monde. Pour moi, le vrai personnage, c'est l'univers, c'est le monde. Et au travers de quelques histoires et de quelques personnages, je vais raconter différents aspects de ce monde. Puisque le monde de Troie, tel qu'on l'a connu dans L'Enfeust ou dans Les Trolls, ce qui m'intéressait de montrer dans Les Conquérants, c'était que au début de la colonisation, c'était complètement différent. Cette société-là n'était pas encore structurée. Elle allait se mettre en place. Donc, sur quelle base elle allait se mettre en place ? On est avec des colons qui, comme dans les trois quarts des colonies, n'avaient absolument aucune envie d'être là, ont été déportés, posés là de force pour coloniser l'endroit. Et ce qui s'est passé en Australie, en Amérique du Sud. Bon. Et avoir donc le point de vue de gens dont l'objectif est d'arriver à partir de cette planète sur lesquels on les a posés, alors que le lecteur, lui, est attaché à cette planète. Donc je place à nouveau dans un paradoxe. Et puis après, dans les légendes de Troie, là, c'est des petites histoires différentes où j'utilise le monde de Troie comme prétexte. Mais l'idée, là, était de faire des petits albums courts, des petites histoires courtes avec différents dessinateurs avec qui j'avais envie de travailler pour placer des histoires qui sont avant tout des histoires humaines. Je m'intéresse aux personnages. Quand on a fait Le Voyage aux Ombres avec Virginie Augustin, on est censé être dans le Darchan, la partie asiatique du monde de Troie. En réalité, c'était une façon de faire une parodie, un détournement du mythe d'Orphée. Et voilà, on avait ce voyage aux enfers qui était un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Je l'ai adapté au monde de Troie parce que j'avais déjà un univers dans lequel le poser. Mais ce qui m'intéressait, c'était avant tout l'histoire des personnages. Même chose avec Didier Casgrain quand on a fait L'Heure de la Gargouille. C'est des petites histoires qui viennent compléter la mosaïque, mais où le monde de Troie n'est qu'un décor de fond.
Bien expliqué. Donc, L'Enfeust continue, le succès perdure au-delà de toutes vos espérances, j'imagine. Hein. Je disais qu'il y a à peu près plus de 12 millions d'albums de vendus, ce qui est quand même, sans parler d'économie inventée, donc c'est quand même la preuve quand même que c'est quelque chose qui a un énorme succès. Quoi.
Bah oui, le succès, si tu veux, il t'amène cette espèce de satisfaction intense de savoir que tu es lu et que tu ne travailles pas dans le vide. Et
ça doit même être énergisant, je pense.
Ah, ça donne une énergie extraordinaire, bien sûr.
Donc, on va reparler aussi peut-être de quelqu'un aussi que tu as rencontré, qui est quelqu'un, un personnage qu'on connaît peut-être mieux dans d'autres domaines maintenant, qui s'appelle Boudjelal.
Oui.
Mourad Boudjelal, qui est peut-être l'éditeur avec lequel vous avez publié L'Enfeust, avec lequel tu vas construire aussi le studio Godfernum, tu vas faire L'Enfeust. Il y a quand même un espèce de travail de collaboration avec quelqu'un qui a cru en toi finalement.
Professionnellement, on a grandi ensemble. Moi, quand j'ai connu Mourad, il avait quelques bouquins à son catalogue qui étaient avant tout des trucs qui étaient sortis dans le journal de Spirou mais qui n'étaient jamais sortis en album.
Oui, je m'en souviens de cela.
Sous le label MC, il avait sorti le Flagada, il avait sorti des choses comme ça. Et à l'époque, il était libraire dans une petite rue sombre de Toulon, avec une librairie grande comme un garage. Et il faisait lui-même les maquettes ou les tracettes, les tracettes qu'on décalquait là. Il faisait les maquettes ou les tracettes sur le comptoir de la librairie. Et puis voilà, les premiers bouquins sont sortis comme ça, on tapait dans la main. Il avait une vieille Golf orange toute pourrie. Et puis voilà, et puis maintenant, il a des Ferrari et des BM. Moi, j'ai une voiture un peu mieux qu'avant, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, il vaut mieux être éditeur qu'auteur, quand même.
C'est quand même lui qui a fait fortune. Non, alors, une question aussi importante qu'à un moment donné. Donc, toi, tu habites Aix-en-Provence. Mourad était à Toulon. Est-ce que le fait d'être en province, d'être un peu coupé du parisianisme, tout ça, a pu jouer dans ce que tu as fait, ce que vous avez fait tous les deux, quoi? Est-ce que c'est quelque chose d'important?
Non, je pense pas. Je pense pas que ça ait joué. Non, ce qui a joué, c'est le fait que on a démarré dans une petite boîte. C'est-à-dire que on se l'est souvent dit avec Tarquin, si on avait démarré l'enfeu chez Dargo, on aurait été la cinquième roue de la charrette. Bon, ça aurait marché gentiment, mais on n'aurait pas peut-être pas réussi à toucher un public aussi vaste, alors que là, l'éditeur, Mourad Boudjelal, a mis toute son énergie, dès qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui frémissait, il a mis toute son énergie sur l'Enfeust, il a construit sa boîte autour de l'Enfeust, et donc il nous a énormément projeté en avant aussi. Et puis, on avait un éditeur qui était présent au quotidien, voilà, on se téléphone 3 fois par jour, enfin on se téléphonait, puisque maintenant il a revendu la boîte, il s'occupe uniquement du RCT, du club de rugby. Mais même si d'ailleurs il appelle encore souvent pour parce que il a beau avoir revendu sa boîte, il aime bien savoir ce qui s'y passe quand même.
Ça, c'est quand même un peu son.
C'est forme quelqu'un qu'on reverra à mon avis dans le ventre de la bande dessinée un jour.
Quelque chose aussi. Bon, on est là dans les années 90, donc c'est quand même des années pour la BD où bon, les éditions Soleil explosent grâce à l'Enfeuse. Une autre maison d'édition qui s'appelle Delcourt aussi connaît beaucoup de succès à cette époque-là, avec pas mal de séries qui tournent autour de la science-fiction finalement.
Oui, parce qu'il y a Sillage, Aquablue.
Sillage, on en reparlera tout à l'heure, les Aquablue, les Carmen McCallum et tout ça. Donc, est-ce que les années 90, on pourrait dire qu'il y a un ensemble d'auteurs comme. Comme toi, Maurier, peut-être Jean-David de Morvan, Philippe Buchet, qui sont à peu près de la même génération, est-ce qu'on peut vous considérer comme des gens qui ont été nourris de science-fiction, mais un peu aussi comme Olivier Vatine, les enfants de Star Wars, d'une certaine manière?
Ah oui, indubitablement, bien sûr. Bien sûr, Star Wars, c'est quand même un phénomène qui a. Moi, j'avais 13 ans quand je l'ai vu en salle la première fois, le premier. Et ben, je suis ressorti de là en me disant waouh, un jour, je voudrais faire une histoire comme ça. Bien sûr, on est toute une génération à avoir été très marquée. Mais en même temps, on est aussi toute une génération justement qui a pu arriver dans la SF de façon décomplexée.
C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai entendu Philippe Buchet dire le même mot, décomplexé.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ben, on raconte ce qu'on veut, on fait comme on veut. Et peu importe, il n'y a pas de règles à respecter. L'important, c'est de raconter nos histoires.
C'est ça qui est, c'est le plus important, même si le cadre est SF, quoi, finalement, c'est pas...
Le cadre, la SF, c'est un prétexte. C'est un prétexte qui donne une grande liberté, qui donne beaucoup d'exotisme dans les décors, dans les dessins. Mais ce qu'on raconte, c'est toujours avant tout des histoires humaines, des personnages.
Donc ça, dans ça, vous êtes dans la grande tradition des auteurs de SF américaines des années 60, de parler de Vance, Silverberg et tout cela. Ah bah oui. Vous restez dans cette tradition, sauf que vous utilisez l'image. Alors maintenant, une question, parce que au début, tu voulais raconter des histoires, tu as dit que tu fais la BD. Alors pourquoi as-tu pensé que c'était la bande dessinée, le mode d'expression qui te conviendrait le mieux?
Parce que j'aime l'image, l'image m'intéresse. Et la bande dessinée, on a une feuille de papier, un crayon, on est tout seul et on peut commencer à bosser. Ceux qui veulent avoir le courage de se lancer dans le cinéma ou dans tous ces trucs-là, il faut commencer par passer des années à réunir des fonds, à avoir des équipes de 30-40 personnes, à parler avec des producteurs, à résoudre des problèmes techniques. Et finalement, enfin pour moi, je ressens tout ça comme un parasitage de la création. On fait de la BD, je suis seul avec mon dessinateur, on est tous les deux. Ce qu'on fait ne coûte rien. J'ai besoin de 300 figurants et d'un décor formidable. Ça coûte toujours une feuille de papier, un crayon. Et on a une liberté totale. Dès que parce qu'un bouquin, ça coûte rien à faire pour un éditeur. Aujourd'hui, lancer un bouquin pour un éditeur, ça coûte 30 000 euros. Voilà. Lancer un film, ça coûte, même un petit film français, ça coûte 4 millions d'euros. Donc, l'économie n'est pas la même, donc la liberté est beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que la bande dessinée, moi qui aime l'image, je ne dis pas qu'un jour je ne vais pas essayer de faire un roman, parce que ça me tente assez, mais ça sera toujours quelque chose d'anecdotique. Pour moi, l'important, c'est l'image.
Très important, c'est l'image. Alors, à propos d'image, Christophe, j'aimerais bien que tu me commandes celle-là.
Oui, alors ça, il faut savoir que Jean-Louis Maurier est un fou furieux dangereux. En plus a eu une tendinite au pouce cet été, donc pour se soigner de sa tendinite, il s'est dit tiens, je vais refaire la scène de Léonard de Vinci. Il l'a faite en entier. Ça, c'est un boulot qu'il fait directement à l'ordi, en peignant directement sur l'ordinateur. Et ça, pour vous donner une idée du talent de ce garçon, c'est 2-3 jours de boulot, pas plus. Et voilà, Jean-Louis est un dessinateur d'une facilité incroyable, capable de dessiner absolument tout ce qu'on lui demande, sans réfléchir, sans chercher de documentation. Bon, il faut dire qu'il a une formation de peintre classique. Le Vinci arrive, mais il s'est amusé à faire pour des coffrets. On a déjà un troll à l'oreille coupée, façon Van Gogh, une oie, façon Modigliani. Le radeau de la Méduse avec toutes les craquelures du tableau. Il a décliné, il y a un faux Dali, il s'amuse de temps en temps à ses heures perdues à adapter les trolls au monde de la peinture et à faire toute une série de faux.
C'est assez remarquable. Vous n'avez pas eu de problème avec le Vatican pour l'instant?
Oh non, ça, de toute façon, mais je les cherche les problèmes avec le Vatican.
Je les cherche, bon, d'accord. Voilà. Donc, alors, ce succès de L'Enfeust et des autres séries qui suivent fait que tu crées un studio, Godferdom. Studio et un journal qui s'appelle L'Enfeust Mag. Alors, qui est à contre-courant finalement de créer L'Enfeust Mag dans les années 90, alors que tout, comme on disait au tout début, que la presse était, BD était moribonde.
Bah oui.
La presse de pré-BD. Toi, encore, tu vas à contre-courant. Et
alors,
puis finalement.
Ça, c'est les avantages du succès, que je faisais gagner beaucoup d'argent à Mourad Boudjelal. Donc, je suis rentré dans son bureau un jour. Je lui dis écoute, je te fais gagner beaucoup de sous. Et bien là, je vais t'en faire perdre. On va faire un journal. l'avantage du poids économique, c'est qu'il était obligé de dire oui. Et puis, le pire, c'est qu'on arrive à ne même pas perdre d'argent avec le journal. Mais par contre, on n'en gagne pas non plus, parce que dès qu'on en gagne, je rajoute des pages, je paye un peu mieux les jeunes auteurs. On rajoute une cinquième couleur, du vernis brillant, enfin voilà.
D'accord. Donc le fait de studio et de ce journal, c'est quand même, je ne vais pas dire un laboratoire, mais un espace dans lequel tu as pu faire donner leur chance à des jeunes dessinateurs, à des jeunes auteurs masculins, féminins, à plein de gens. Et ça, je trouve ça intéressant et riche et c'est généreux parce qu'on est quand même dans une société qui est plutôt égoïste. Et toi, tu as dit j'ai du succès, l'auteur gagne de l'argent, donc on va le partager avec d'autres. Quoi, et on va essayer de donner leur chance à des auteurs.
C'est marrant, j'en parlais avec Baron Brumeur tout à l'heure. Moi, j'ai été très marqué par les vieux Belges. Parmi mes premiers vrais amis dans ce métier, il y avait François Valtéri en particulier. Et tout cet esprit de compagnonnage que développaient ces auteurs. Avec le fait que Peillot faisait travailler Valtéri, Valtéri faisait travailler un autre, et chacun passait le témoin à la génération suivante. Et j'ai toujours trouvé ça très sympa et une bonne façon de fonctionner. Moi, j'aime aussi construire des familles un peu, des familles ouvertes, parce que l'atelier Godferdom, il y a aujourd'hui plus de 150 personnes qui y sont passées. On faisait le compte l'autre fois. Certains dessinateurs très, très connus, d'autres qui sont des jeunes, qui ont plus ou moins connu ou plus ou moins du succès. Après, il y a des jeunes auteurs qu'on a publiés dans le journal sur des histoires complètes. Là, par exemple, la couverture du journal de ce mois-ci est dessinée par un garçon qui s'appelle Paul Salomon, qui fait chez Delcourt une série qui marche très bien, qui s'appelait L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Paul a commencé dans le journal il y a 6 ans avec des petites histoires complètes. C'est un retour au journal 6 ans après, maintenant que sa série marche fort. Et on est content de voir qu'on ne s'était pas trompé. On l'avait fait travailler, on lui a fait refaire plein de trucs à l'époque. On a été très dur, parce qu'on les fouette à ce moment-là pour les faire progresser. Mais tout ce travail a amené un auteur aujourd'hui à devenir un grand auteur accompli. Donc là, on se dit, ça fait plaisir, c'est valorisant.
Donc oui, non, ça, je pense que c'est quand même très sûr parce que actuellement il faut se dire que beaucoup de jeunes auteurs ont du mal à trouver leur place dans le monde de la bande dessinée, dans le monde de l'édition, quoi. D'avoir quand même ce lieu, un atelier comme ça où on sent enfin, en même temps aider et en même temps driver pour, comment dire, y arriver quoi, finalement, et être...
Oui, et puis de toute façon, c'est un échange aussi, parce qu'en même temps, les jeunes qui débarquent, ils nous amènent une énergie qu'on n'a plus forcément, naturellement, sinon, si on reste enfermé seul chez soi. Tu avais l'indélicatesse tout à l'heure de parler de mon âge. J'arrive à 50 ans l'an prochain. Si je bossais tout seul, enfermé chez moi, je passerais à côté de beaucoup de choses. Là, on a des mômes de 16 ans, 17 ans qui sont dans l'atelier, d'autres qui en ont 25, d'autres qui en ont 30, d'autres qui en ont 40, et puis qui arrivent avec un nouveau jeu vidéo, avec une nouvelle connerie à montrer sur YouTube, et tout ça, on reste dans le jus en permanence, on reste en contact, et ce qui fait que moi, j'ai l'impression d'avoir 25 ans au milieu de tous les autres. On oublie complètement les différences d'âge. Là, ce mois-ci, on commence à passer des pages d'une fille qui est maintenant, j'allais dire une gamine, non, c'est plus une gamine, elle a 21 ans. Elle est arrivée à l'atelier pour faire son stage de 3e. Elle avait 14 ans et elle avait quelque chose de très intéressant dans son dessin. Bon, mais à 14 ans, elle n'était pas publiable, évidemment, mais elle est toujours venue à l'atelier, elle est toujours passée, elle est toujours... Et là, maintenant, bah, ça y est, ça devient un auteur qui est un auteur vraiment intéressant, qui a développé son univers, qui porte son truc... Et voilà, et les portes sont toujours ouvertes à l'atelier, on reçoit sans cesse des nouveaux, et c'est comme ça, c'est ce qui amène la vie en permanence.
Donc, mais dans cet atelier, vous recevez des jeunes gens, des jeunes auteurs, donc il y a quand même un phénomène qui arrive actuellement dans la bande dessinée. Donc toi, tu as commencé crayon, papier, gouache, couleur à la main, scan et tout ça. Et la révolution numérique, est-ce qu'elle influence ton travail actuellement et le travail, j'imagine, encore plus chez les jeunes auteurs? Est-ce que l'utilisation du numérique est en train de bouleverser quelque chose ou pas dans la création ou...
Pour le moment, non. Pour le moment, ça reste un outil. Bon, tout ce que tu vois de Jean-Louis, voilà.
C'est fait à l'ordinateur.
Ça, c'est fait à l'ordi à 100%. Il n'y a plus de feuilles de papier, plus de crayons noirs. Lui, il a tout laissé tomber. Il travaille sur une Cintiq. C'est-à-dire qu'il travaille directement sur l'écran. C'est un grand écran et avec le stylet on travaille sur l'écran. Clac, il a ses outils, mais c'est jamais qu'un changement d'outil. C'est pas plus important que de passer de la plume au pinceau. Ça ne change strictement rien. Là où ça changera, c'est quand on va commencer à réfléchir à la façon d'utiliser et d'adapter des bandes dessinées pour une lecture numérique directement. Donc, est-ce qu'il faudra mettre des semi-animations ou pas? Le format de l'iPad et des tablettes, est-ce qu'on va falloir s'y adapter ou pas? Là, il y a des tas de questionnements, mais qui se posent depuis 2-3 ans et personne ne trouve les réponses pour le moment.
Non, personne n'a encore les réponses. Non. On verra peut-être plus tard, demain ou après-demain, un projet autour de ça du professeur Cyclope. Peut-être que parler de quelqu'un qui nous a quittés cette année. C'est quand même un dessinateur, c'était Jean Giraud, Mebius. Avec tous les dessinateurs, quand on en parle, bon, il est décédé. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris ça?
Comme tout le monde, ça fait un énorme vide. Hein. Ouais. Giraud, il fait partie des types comme Franquin, comme Uderzo, ouais. Des types qui ne sont pas Dieu, mais juste au-dessus. Quoi. Et voilà, en plus, Jean, j'avais la chance de le connaître un petit peu.
Moi, j'imagine, ouais.
C'était humainement un type extraordinaire et professionnellement un type irremplaçable parce qu'il avait une curiosité permanente, une recherche permanente, quelqu'un en évolution constante. À 70 ans, il était encore à chercher. En même temps, il avait tout à fait conscience de son talent et de sa maîtrise, mais ça ne lui suffisait pas. Il était toujours en recherche. Et je crois que c'est à ça qu'on reconnaît aussi les grands dessinateurs et même les grands auteurs, de toute façon, quel que soit leur domaine d'activité, c'est le fait de jamais se satisfaire de ce qu'ils ont fait et de toujours essayer d'aller plus loin et toujours rechercher. Moi, j'ai eu la chance qu'ils me fassent 3 couves de bouquins. J'avais organisé des collectifs au cours des albums de Serge Gainsbourg, enfin même 4, parce qu'il y en avait un avec Eddie Mitchell aussi. Mais je me souviens des 3 couves de Gainsbourg, il m'a sorti 3 dessins hallucinants et bluffants complètement. Alors qu'au début, lui-même m'avait dit « Ah oui, mais alors attends, Gainsbourg, c'est quand même un gros morceau. Ça file un peu le trac. Gainsbourg, quoi !» et puis, quand je l'ai vu livrer les dessins, j'ai fait « Bah voilà, c'était d'une justesse de ton, d'analyse, en même temps extrêmement parlant, extrêmement beau. C'était juste magnifique, quoi. »
Comme beaucoup de choses qu'il a faites. Ouais. Ah oui. Donc maintenant, avec... Maintenant que tu es un peu plus âgé, tu es un peu plus de 25 ans. Donc, voilà. Alors maintenant, tu t'es tourné un peu, comment dire, avec les séries. Bon, L'Enfeu s'est décliné dans les Trolls, et les Trolls viennent de se décliner un peu dans les Gnomes de Troie. Tu t'intéresses aussi peut-être à revenir à une BD qui s'adresse plutôt à des enfants plutôt qu'à un public ado-adulte. Il y a les Gnomes de Troie, et puis aussi la série, que j'aime assez bien, quelque chose d'original qui s'appelle Lord of Burger.
Ouais.
Travail de collaboration. Alors cette série, moi, elle m'intrigue un peu parce que c'est une série qui met en scène des gens et on est dans le monde de la nourriture, de la restauration, de comment dire, épicurien un peu. Avec ça, t'as une espèce. Il y a dans les sujets que tu traites, il y a une défense d'un certain mode de vie épicurien, j'ai l'impression, dans Lord of Burger.
Oui, enfin même même quand on voit la vie des trolls, hein, c'est, ouais, très, ouais, c'est très sainement épicurien aussi.
C'est un peu plus frustre.
oui, non, Lord of Burger. Là, par contre, l'idée n'est pas de moi au départ. C'est Jacques Glénat qui est venu me dire, écoute, je sais que tu aimes la grande cuisine, tu aimes les grands vins, t'as jamais rien fait là-dessus. Je lui ai dit, oui, en effet, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et par contre, il m'a dit, bon, bah, alors, allez, fais-moi un truc là-dessus. Donc là, j'ai pris un contre-pied immédiat, au lieu de faire quelque chose de très classique, institutionnel, façon un peu les maîtres de l'orge dans la cuisine, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, lui, c'est ça qu'il attendait.
La saga des grands restaurateurs.
Et en fait, on est parti sur un concept, pas manga, mais avec le dessin d'Alessandro Barbucci, qui a des influences manga, avec un truc très dynamique, très, très jeune. Parce que je me suis dit, tiens, quitte à parler de cuisine, j'ai envie d'en parler à un public plus jeune. Et voilà, on s'est énormément amusé. Là, le quatrième sort bientôt, en plus qui est dessiné entièrement par Alessandro Barbucci. C'est quand même une série assez paradoxale là-dessus. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Alessandro en directeur artistique. Bon, Alessandro Barbucci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Skydoll, le dessinateur de Skydoll. Et puis, pour les plus jeunes ici, le créateur de Witch. Donc, voilà, c'est quand même juste un truc qui a vendu 50 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, pas tout à fait n'importe quoi en termes de poids éditorial. Et donc, le premier, il faisait le directeur artistique avec deux autres dessinateurs. Après, au troisième, il est devenu le dessinateur, mais avec une encreuse. Et puis au quatrième, il a fait le dessin et l'ancrage lui-même. Alors que d'habitude, les types se désinvestissent petit à petit. Lui, il s'est investi de plus en plus dedans.
Alors, le pitch de Lord of Burger, c'est l'histoire
d'un frère et d'une sœur qui héritent d'un restaurant 3 étoiles Michelin. Et bon, le père a été tué dans des circonstances un peu troubles, donc il y a une petite enquête policière en parallèle. Et surtout, eux, il va falloir qu'ils arrivent à faire tourner ce grand restaurant alors que le père n'est plus là. Et là, ils vont découvrir qu'un grand restaurant comme ça, c'est avant tout extrêmement coûteux parce qu'il y a énormément de personnel, parce que c'est des produits chers, parce que... tout n'est pas si facile que ça, et comme ils vont perdre leurs 3 étoiles, il va falloir essayer de les regagner petit à petit.
Donc, et ça allie ce que disait Jacques Glénat, ton goût pour la bonne nourriture, la bonne chair et les grands vins.
Ah, bah oui, puis on s'amuse à faire des pages de recettes au milieu, oui, à faire des recettes qui sont les miennes à chaque fois. Hein. Attention, des recettes originales. Hein. Il y en a une qui n'est pas de moi, qui est de Yannick Aleno, le chef du Meurice, qui nous en a fait une pour le premier tome, premier tome.
C'est quand même pas les recettes de Gaston Lagaffe.
Non, c'est pas vraiment les recettes de Gaston.
La morue aux fraises, non, vous faites pas. Quoi.
Non,
pas ça du tout. Et autre série que tu développes là, pour un public un peu plus adulte, qui s'appelle Chimère, qui est plutôt une série plus sombre, qui met en scène une jeune fille dans une mise en close. Donc c'est là que tu développes avec d'autres personnes. Pourquoi cette envie de raconter une histoire qui est beaucoup plus tragique, un peu plus dramatique quand même. Hein.
Oui, là, c'est une histoire complètement différente de tout ce que j'ai fait jusque-là, qui est née un petit peu par hasard au départ, puisque c'était un travail de commande d'une boîte de production parisienne qui voulait faire un sujet sur un bordel à Paris au 19e pour Canal+. J'ai, avec Mélanine, proposé Chimère. Au départ, donc, j'avais demandé à Mélanine de travailler avec moi. On a construit le truc et un jour, Mélanie arrive et me dit « Voilà, notre histoire, elle est très bien, mais elle est assez classique. Par contre, il faut que la gamine ait 13 ans et non pas 18. » Moi, je lui dis « Mais t'es folle, ça passera jamais. » Et puis, le lendemain, je lui dis « Mais non, t'as raison. Toute l'idée est là-dedans, toute la force du personnage est là-dedans, d'avoir une gamine de 13 ans qui se retrouve dans une maison close, mais qui n'est pas une causette, qui n'est pas une victime directe et qui est, au contraire, un personnage très fort, très manipulateur. » Et voilà, on a défendu notre idée là-dessus. La boîte de production a adoré, l'a envoyé à Canal+. Canal+ a répondu, formidable, super, on le fait. Mais évidemment, bien sûr, la fille a 18 ans, elle n'a pas 13. Hein. Et là, on a dit non, 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 nous, on ne veut pas céder là-dessus. Donc, eux ont fait maison close de leur côté. Et nous, j'ai tout de suite envoyé le scénario à Jacques Glénat qui m'a dit « Ah, banco, je fonce ». Donc voilà, on a attaqué avec ce dessinateur, Vincent Beaufrère, qui est un dessinateur extraordinaire parce que c'était extrêmement délicat. On a quand même une situation très dure. On voulait être très réaliste, on est dans un bordel, il y a des scènes très crues et il fallait désérotiser complètement la situation. Graphiquement, c'était très délicat parce qu'on voulait que, bah, quand il y a une fille à poil, on dessine une fille à poil, mais sans avoir la moindre once d'érotisme dedans, tout en étant réaliste. C'est une équation, c'est là où trouver le bon dessinateur est quelque chose de très subtil, de très délicat parfois. Et là, on est avec quelqu'un qui a l'équilibre parfait. Et je suis vraiment très très content du résultat. Et bon, après, on avance dans notre histoire. On est en train de découvrir des choses sur les origines de Chimère, sur le fait qu'évidemment, cette situation très dure qu'elle vit et qu'elle intériorise laisse des séquelles psychiatriques. Dans le troisième tome, là, on commence à amener le personnage de Charcot. Alors, en plus, j'ai vu juste avant de partir ici qu'il y a un film en ce moment qui est au cinéma, avec Charcot soignant une fille de 15 ans.
Oui, Charcot qui était un peu l'ancêtre de la psychiatrie. Quoi.
Qui était l'ancêtre de la psychiatrie, le type à qui Freud a tout pompé. Hein,
oui, oui.
Et qui, par l'hypnose, essayait de... Et là, je me suis dit, merde, une fois de plus, il y a un film qui va sortir 6 mois avant notre bouquin, alors qu'on est en plein dans le sujet. Bon, on va encore nous dire qu'on a copié, alors que ça fait 3 ans que les pages sont écrites, mais bon.
Pour finir, on va essayer de conclure sur cette question-là. Est-ce qu'il t'est déjà venu l'envie d'adapter quelque part un roman que tu aimes bien en bande dessinée ? Et si tu ne l'as pas encore fait, pourquoi ?
L'envie, je l'ai eue souvent et je ne l'ai pas fait parce que je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On est sur des modes narratifs différents. La bande dessinée, c'est un type de narration spécifique qui marche uniquement quand elle fait sa propre création. Quand on veut adapter un film en BD, moi, je suis désolé. Alors, il y a des trucs qui peuvent se vendre un peu, mais moi, généralement, ça m'emmerde. Je trouve ça nul. Ça me tombe des mains. Les adaptations de romans en BD, il y en a assez peu de réussies. Je dis assez peu parce qu'il y en a peut-être, mais je suis en train de chercher dans ma tête laquelle
peut-être
pourrait être réussie.
Tardy, peut-être.
Oui, oui, Tardy. Oui, les manchettes et Tardy.
Ou les malais et Tardy, parce que c'est très
Tardy.
Visuel, parce que.
Oui, oui. Non, c'est vrai que ça fait des bonnes bandes dessinées, oui. Mais parce qu'il est parti sur une adaptation très libre aussi. Il s'est imprégné du personnage, mais de
Nestor Burma. Et surtout, bon, il développe des décors, quoi. Surtout les décors de Paris, ça met ça. Mais c'est vrai que c'est un exercice vraiment difficile. On voit ce que vient de faire Olivier Vatine avec New York de Stéphane Vuhl, pour revenir à la SF. Ouais. C'est une tendance quand même qui...
Ben, j'ai failli en faire un, justement.
T'as failli en faire un dans cette nouvelle collection
Dans cette collection, mais bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais ça me posait vraiment un problème. Justement, on était d'accord sur le fait qu'il fallait s'éloigner beaucoup du roman original.
Ouais, voilà, la question qui se pose, c'est...
C'est-à-dire que dans un roman, on peut visualiser, enfin raconter, décrire toute l'intériorité des personnages. Dans la bande dessinée, on est toujours une caméra extérieure sur le personnage, ou alors on fait un type avec des bulles de pensée tout le long, et ça ne fonctionne pas dans la BD. Donc, on ne peut adapter que quelque chose, je dirais, d'assez simple, d'assez action, et de garder juste une linéarité, un fil. Mais toute la psychologie et l'intériorité doit être rendue de façon complètement différente dans la bande dessinée.
Donc, qu'est-ce que tu... Alors, il y a l'adaptation de Jacques Vance du cycle de Chai en BD, qui a été fait avec Casa au dessin, si je me souviens bien. Ouais.
Non, c'était pas Casa, c'est mon camarade Jean-David Morvan qui est là, qui avait fait l'adaptation. Dessinateur dont j'ai oublié le nom, malheureusement.
Moi, je sais plus, on cherchera, c'est
pas grave. Mais bon, j'ai pas été convaincu.
T'as pas été convaincu, ouais.
Alors qu'autant j'adore le travail de Jean-David quand il est original, autant là. Je sais pas, ça m'a pas touché. Non, je pense que c'est un risque que je prendrais pas a priori. Disons que pour adapter un roman, il faut prendre une œuvre mineure, sans grande importance, garder ce qu'il y a de bon dedans, la phagocyter complètement et refaire autre chose avec. Or, les grands romans, ceux qui peuvent m'inspirer, me donner envie d'être adapté, je veux pas leur faire ça.
D'accord. Donc, et pour finir, là, quels sont tes projets là, pour les les quelques années à venir sur ce que pour bon je pense qu'on continue l'enfance tout le monde de trois
bien sûr je continue les séries en cours je m'amuse toujours autant avec les trolls de Troyes, ça c'est vraiment mon grand pied les moments où j'écris du troll
parce que là
j'ai 12 ans et demi et je m'amuse et je suis
à fond. Parce qu'il y a quelque chose de remarquable dans les trolls, c'est tous ces jeux de mots là.
Oui, les jeux de mots et puis toutes les situations. Il y a un dessin animé télé, Troll de Troyes, qui est une animation très simple et très pauvre. Hein, c'est de la 2D. C'est pas le dessin de Jean-Louis qui est repris. On est parti sur un truc qui ressemble un peu plus à du Gorillaz dans le trait. Mais par contre, comme c'est Canal+, ils nous ont donné une grande liberté de ton par rapport au dessin animé télé habituel. Donc là, je supervise tous les scripts, je relis tous ces trucs-là en ce moment. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant. Et puis sinon, il y a une nouvelle grande série que je prépare, là, qui a commencé à sortir dans l'Enfos Mag, avec Alessandro Barbucci, justement, qui s'appelle Echo, qui est une façon nouvelle d'aborder la fantasy pour moi, qui est de... c'est l'histoire d'une fille qui est dans le 747 entre Paris et New York. Il y a un orage et on se retrouve dans le dragon qui va atterrir à New York. Et elle se retrouve dans un New York d'Heroic Fantasy où l'électricité ne fonctionne pas, mais c'est quand même New York. Il y a Central Park, il y a les buildings, il y a tout ça. Et ça va être une façon de montrer notre monde version Heroic Fantasy, mais avec toutes les références à notre monde. Quand on sera à Paris, il y aura une tour Eiffel en bois. Et voilà.
Écoute, bah merci.
Ça s'appelle Echo.
Echo. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci Christophe d'avoir répondu aux questions et de nous avoir un peu découvert et amené à découvrir quel est ton univers et comment il s'est formé et puis qu'il est encore un énorme et un très très bel avenir.
J'espère.